Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir de recevoir le professeur Jean-Jacques Puchart qui vient de faire paraître chez ESCA un remarquable ouvrage, Master Stratégie, dans une collection en master dirigée par Jacques Higalens. Monsieur le professeur, bonjour. Nous nous connaissons déjà un peu. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous avez exercé précédemment, avant de rentrer du côté de l'université, des fonctions importantes dans des grandes entreprises internationales, dont on taira le nom, enfin, sauf si vous voulez le dire tout à l'heure. Alors, nous vous connaissons depuis plusieurs années, et notamment puisque un de vos ouvrages, L'ingénierie financière de projet, a reçu le prix spécial Turgot en 2001. Vous êtes d'ailleurs membre du Cercle Turgot et vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage qui a d'ailleurs été promu lors d'un colloque qui s'est tenu au Panthéon-Sorbonne le 6 mai, Repenser la planète finance. Et votre contribution a été particulièrement remarquée sur le domaine de l'éthique des dirigeants, un sujet d'une grande actualité. Alors, pourquoi cet ouvrage ? Première question, quel est le fil général ? Et on reviendra peut-être sur votre fonction précise au niveau de l'université, mais un mot d'emblée sur la cible, sur la finalité de cet ouvrage.
Très bien. Eh bien, monsieur Chambon, comme vous venez de le retracer, j'ai effectivement une double expérience de cadre d'entreprise. J'ai travaillé au sein d'un groupe pétrolier pendant 20 ans dans des fonctions essentiellement financières, puis dirigé une filiale de distribution du groupe. Et puis, lorsque cette filiale a été cédée à un groupe anglais, j'ai fait le choix, répondant à une vocation d'ailleurs ancienne, d'entrer dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Et après un parcours, je dirais classique, plus court, mais classique, j'ai occupé plusieurs fonctions dans diverses universités, écoles de commerce, et je suis actuellement donc professeur à la Sorbonne, professeur dans les disciplines du management stratégique et la théorie des organisations, qui est l'objet de l'ouvrage. Donc d'abord, cet ouvrage, c'est un manuel.
D'accord. Mais vous êtes aussi chercheur.
Des étudiants, enseignants-chercheurs, puisque dans notre statut, d'ailleurs international, mondial, toutes les universités mondiales et statutaires qui font profession d'être enseignants sont également chercheurs. Et d'ailleurs, ce qui est discuté actuellement, ce n'est pas l'objet du tout de cet entretien.
D'accord. Mais enfin,
c'est le statut d'enseignant-chercheur. Et d'ailleurs, on estime aujourd'hui, dans la communauté universitaire internationale, qu'on est avant tout chercheur et également enseignant, mais que l'enseignement doit se nourrir de la recherche, et de la recherche publique, c'est-à-dire la recherche désintéressée, la recherche mertonienne, qui ne peut trouver développement et d'application que par une étroite coopération avec les entreprises. Donc, si vous voulez, la première cible de cet ouvrage, ce sont les étudiants en formation initiale, étudiants de master, donc Bac plus 4 et Bac plus 5, également, bien sûr, les écoles, les étudiants des écoles de management, qui sont nombreuses en France, je crois 250 environ, sous divers statuts, les universités étant, comme chacun sait maintenant, puisque c'est un conflit très médiatisé, étant 79 en France. Et dans toutes les universités françaises, il y a à minima un enseignement de management stratégique. Mais il y a une autre cible, c'est, je dirais, une des spécificités, une des originalités de cet ouvrage, qui est le fruit d'une expérience de cadre d'entreprise et d'enseignants, chercheurs. Ce sont les cadres d'entreprise, et plus particulièrement les cadres dirigeants. Et je sais que vous êtes également,
très sensible,
le président du Cercle Turgot, vous êtes également le président de l'Association nationale des cadres dirigeants. Et le 6 mai, que vous évoquiez tout à l'heure, j'étais présent, bien sûr, puisque j'étais un peu la puissance accueillante.
Absolument.
Puisque nous y accueillions à l'Université de Paris 1, mais j'ai écouté avec une très grande attention, je dirais, aussi avec un très grand réconfort la présentation, le lancement de cette charte déontologique des cadres dirigeants salariés. Je dirais qui était très attendu de l'ensemble des milieux des cadres dirigeants, mais du plus largement, je dirais, de l'ensemble de la population française, qui actuellement se posait parfois quelques questions sur les comportements et les intentions plus ou moins éthiques de certains, heureusement très marginaux, de certains cadres dirigeants. Voilà, donc une double cible. Les futurs dirigeants de demain qui sont actuellement encore sur les bancs des universités et les cadres dirigeants, soit qu'on appelle les cadres à haut potentiel, qui seront les dirigeants de demain, soit les dirigeants d'aujourd'hui. Donc les cibles sont assez larges, qui expliquent d'ailleurs l'architecture générale de l'ouvrage qui est un peu particulière.
Donc en trois chapitres, si je me souviens.
Voilà, en trois
principaux chapitres, en trois grandes parties.
Alors, aujourd'hui,
en première partie, où vous parlez de réorientation stratégique des entreprises.
Voilà, c'est présenté dans une optique dynamique.
C'est ça.
C'est-à-dire, c'est un ouvrage, je précise, j'aurais dû le dire d'emblée d'ailleurs, c'est un ouvrage collectif. J'en étais le principal rédacteur, mais plusieurs de mes collègues des universités de Paris, dont certains ont une très grande notoriété dans notre milieu scientifique, ont bien voulu accepter de faire part de l'état d'avancement de leurs recherches. Donc ce n'est pas un manuel classique, c'est pour une part effectivement un apport de concepts, de modèles, de théories, ce qui est, je dirais, l'objet même de tout manuel universitaire, mais c'est aussi un ouvrage scientifique qui collationne un certain nombre de chapitres qui sont dédiés aux avancées scientifiques dans les différents domaines qui sont couverts par l'ouvrage. Donc, dans la première partie, présentée de manière dynamique, en fait, ce sont les grandes théories et les pratiques courantes du management stratégique qui portent sur les méthodes de diagnostic stratégique, les différents types de décisions stratégiques qui sont prises par les dirigeants. Tout cela dans une optique comparée au niveau international. Donc là, cette première partie comporte trois sous-parties. L'une présente de manière très synthétique, c'est volontairement synthétique, les concepts, les théories de base. La deuxième, les avancées scientifiques en matière de management stratégique. C'est un domaine qui a beaucoup évolué. Depuis une trentaine d'années, il y a eu très nombreux théoriciens qui sont penchés. D'ailleurs, c'est une des plus jeunes disciplines de l'ensemble des disciplines de gestion, contrairement à la comptabilité, à la finance, qui sont disciplines fondatrices de la gestion. Le management stratégique est apparu, on situe, au début des années 60, avec des grands noms comme Ansoff, plus tard sont arrivés Porter, par exemple, qui est aujourd'hui, je pense, le plus connu de tous les théoriciens du management stratégique, et professeur à Harvard. La troisième sous-partie de cette première partie porte sur des études de cas. Peut-être pourrais-je développer rapidement ce point tout à l'heure. Nous avons dû, et c'est justement une des originalités de l'ouvrage, il est illustré d'un grand nombre d'études de cas en profondeur qui portent sur des entreprises de haute technologie que nous baptisons de par, je dirais, les avancées managériales dont elles ont pu faire preuve, que nous baptisons les majors du XXIe siècle. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est connaître quels sont les processus de diagnostic, de décision, d'organisation, l'organizing, comme dit le grand théoricien Veik, des entreprises du XXIe siècle. Donc, on se tourne résolument vers l'avenir dans cet ouvrage. La deuxième grande partie, souvent, ça fait l'objet d'un manuel distinct. Là, nous l'avons inséré dans ce manuel qui se veut pluridisciplinaire, multidimensionnel. Un peu, si je puis me permettre cette comparaison, bien que ce soit dans un autre champ, comme l'ouvrage que vous évoquiez tout à l'heure, « Repenser la planète finance » du Cercle Turgot, qui essaye d'avoir des approches internationales, nationales, éthiques, morales. Là, il y a donc trois visions. C'est comme une sorte de prisme ou de diamant qui, par ses multiples facettes, va pouvoir refléter plus complètement une réalité économique complexe. Donc la seconde partie porte sur le changement organisationnel. Il n'y a pas nouvelle trajectoire stratégique sans nouvelle organisation. L'organisation recouvrant des processus, des systèmes, des pratiques. On parle aujourd'hui de routine, théorie d'Argerie. Je ne vais pas faire théorie à cette antenne, mais quelques grands noms quand même qui ponctuent un peu ce vaste champ scientifique. Et à nouveau, trois sous-parties. la même organisation, les concepts présentés de manière très synthétique, les avancées scientifiques, les études de cas. Troisième grande partie, j'en ai terminé. Parce que je crois qu'il faut voir cette perspective, hein, et ces trois facettes, comme ne constituant qu'un ensemble, hein, permettant de mieux scanner en définitive la réalité managériale d'aujourd'hui, les mutations de la culture et de la gouvernance de l'entreprise.
On y reviendra.
Voilà, tout à fait. Il ne faut pas faire de confusion entre ce qui est management stratégique, les décisions stratégiques qui relèvent du manager et les mutations de la gouvernance, les évolutions culturelles qui intéressent à la fois les plus hauts dirigeants, donc les instances politiques de l'entreprise au sens stratégique du terme, mais également tous les leaders pour la culture, hein, et pour la construction d'identité d'entreprise, tous les leaders internes à l'organisation. Donc, il y a bien une distinction entre les managers et les leaders qui est très importante aujourd'hui. Le plus grand nombre de cours, dans le cadre de la crise actuelle, il y a beaucoup de remises en question des programmes des écoles de management et des universités. Quels sont les nouveaux cours qui sont créés pour la prochaine rentrée? Ce sont des cours de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'entrepreneurship, et ce sont des cours de leadership. Leadership qui inclut les valeurs morales qui sont indispensables, qui sont la colonne vertébrale des managers.
Donc c'est un chapitre essentiel. Alors ce que j'ai noté, que c'est très agréable pour les lecteurs, qu'à la fin de chaque chapitre et de sous-chapitre, vous présentiez une synthèse qui permet, pour ceux qui veulent aller vite, donc pour le public qui est un peu plus large, d'aller immédiatement à l'essentiel pour ensuite revenir sur les différentes... C'est très agréable pour le lecteur, bravo.
Nous adressons aux étudiants donc, qui doivent faire des révisions, qui sont soumis à des examens, donc pour eux, ça leur facilite la tâche. Mais nous adressons aussi, comme je le disais tout à l'heure, à des cadres pressés.
Tout à fait.
Et qui n'ont peut-être pas le temps de lire en particulier les parties concernant les avancées scientifiques. C'est peut-être une lecture de vacances à ce moment-là, mais certainement pas dans le cadre de l'agenda directorial qui est souvent très chargé.
D'accord. Alors, oui, vous avez qualifié votre ouvrage dans votre introduction de manuel et d'anti-manuel. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce point?
Voilà, c'est un manuel pour certaines parties, notamment pour les premières sous-parties. Des trois grands axes qui sont développés, ça se présente comme un manuel dans la mesure où ça présente de manière la plus synthétique possible, la plus positive possible, les principales théories et les grandes pratiques standards du champ qui est visé. De ce point de vue-là, nous sommes tenus d'ailleurs dans les programmes universitaires à respecter, je dirais, une fondation académique, la fondation académique du champ. Donc c'est un manuel. Mais c'est aussi un anti-manuel, là, ça fait référence à un ouvrage célèbre d'il y a 25 ans, qui avait été rédigé sous la plume de deux grands professeurs de stratégie, les professeurs Joffre et Koenig, qui s'appelait Anti-manuel, stratégie anti-manuel, parce que les secondes et troisièmes parties s'efforcent d'adopter un point de vue critique, hein, essentiellement critique, et montrer en quoi la pratique, la réalité du management de l'entreprise peut diverger dans certaines circonstances des apports théoriques, des constructions modélisantes de certains universitaires. Je ne rentrerai pas dans le fameux débat sur faut-il que ce soit, qui avait été lancé d'ailleurs par Mintzberg, le grand Mintzberg, le Canadien, qui enseigne aujourd'hui à l'INSEAD en France, qui est un des plus célèbres théoriciens internationaux des organisations, qui disait on ne peut pas enseigner le management stratégique sans avoir été dirigeant d'entreprise.
Alors ça, au moins, vous répondez à ce premier critère.
Voilà, donc la partie anti-manuel s'adresse à la fois aux étudiants et toujours aux cadres dirigeants, mais tient compte de cette remarque que je trouve tout à fait fondée. Et je pensais pouvoir m'efforcer d'appliquer cette recommandation de Mintzberg du fait de ce cursus un peu particulier en France, qui est le mien, puisque j'ai été successivement cadre dirigeant, puis professeur d'université. La transition entre les deux, je me permets d'ouvrir une très brève parenthèse, qui d'ailleurs ne vient pas critiquer l'institution, mais qui tout de même souligne le fait qu'actuellement, il n'est rien fait dans, ça aurait pu être d'ailleurs une des dispositions de la réforme, dans l'organisation des universités pour accueillir des cadres des expérimentés. Ouais. Les professionnels, bien sûr, sont les bienvenus pour effectuer des enseignements ponctuels, hein, des vacations, comme on dit, d'une manière un peu d'ailleurs péjorative. Dans certains cas, pour être professeur associé, mais ils ne sont qu'enseignants.
D'accord.
Ils ne sont pas enseignants-chercheurs. Ils ne sont en aucun cas associés à ce qui constitue pour nous, je dirais, le mécanisme de reproduction d'institutions. Là, je fais référence à Bourdieu. Les jurys de thèse, les jurys d'HDR, les jurys d'agrégation, les grandes commissions scientifiques, hein, qui ne sont ouvertes qu'aux institutionnels.
Donc l'université reste relativement fermée à ces pontages entre
l'entreprise. À ma connaissance, peu de cas.
Ouais.
Je le dis très modestement, il m'a fallu de longues années pour me reconvertir, repasser d'ailleurs des diplômes après 20 ans d'entreprise. Il faut beaucoup de détermination. Je ne dis pas de qualité particulière, mais
ouais,
une détermination pour pouvoir passer tous ces obstacles qui sont mis devant le candidat
et
par le corps des professeurs d'université.
Sans doute, cet état de fait démontre une des raisons du blocage peut-être culturel qui existe dans ces... Mais c'est un autre débat.
Je pense que c'est vrai que c'est un autre débat, mais il est intéressant de le soulever même brièvement. Je pense que c'est une raison.
C'est une des raisons du...
Oui, une raison profonde, là, profonde, de nature identitaire, donc plus encore que culturelle, qui explique cette prévention actuelle. Ce n'est pas uniquement une question de dispositifs juridiques ou institutionnels, ça va au-delà, c'est culturel, qui explique cette réticence à l'encontre d'une organisation d'université qui serait, non pas calquée, bien évidemment,
sur l'entreprise,
mais qui serait inspirée de l'organisation de l'entreprise, qui est tournée vers une création de valeur mesurable dans le cadre de l'université. Valeur en termes de recherche et en termes d'enseignement. Il faut toujours, bien sûr, faire la part des deux grandes fonctions d'un enseignant-chercheur qui serait donc mesurable, appréciable, dynamisable, au-delà de la mesure du classement, qui serait dynamisable. Les leviers de dynamisation aujourd'hui de ces fonctions sont, je dirais, assez ténus, assez dilués, sont très liés en fait aux personnalités de l'enseignant-chercheur qui est très indépendant. Et pour certains qui ont un profil de chercheurs qui vont travailler, ça je puis en attester, puisqu'ayant travaillé en entreprise, dans un grand groupe et à l'université, qui travailleront autant plus qu'un cadre dirigeant.
D'accord, oui.
Parce qu'ils ont vraiment la vocation, et qui d'autres, au contraire,
pour des
raisons qui leur appartiennent, eh bien, je dirais, ont des comportements plus opportunistes.
D'accord. Écoutez, c'est un excellent éclairage sur un problème que de l'extérieur, en dehors du monde universitaire, on n'est pas toujours en mesure de comprendre. Et il y a des revendications sous-jacentes qui certainement seraient plus fondées à apparaître. Mais bon, on revient sur notre ouvrage. Alors vous avez illustré cet ouvrage par de nombreuses études de cas. C'est donc ça une approche très... très marqué sur ce point. Chaque chapitre est illustré par des études de cas. C'est une façon de...
Dans les manuels classiques, qui sont nombreux, c'était pas si évident de se positionner dans cette grande bibliothèque internationale. Beaucoup d'ouvrages en anglais, moi en français, mais tout de même un nombre appréciable, de se positionner de manière originale. Enfin, surtout, je veux dire, au-delà de l'originalité, de manière la plus constructive pour ses lecteurs, hein, qui relèvent de segments d'ailleurs extrêmement différents. Dans les manuels classiques, on illustre chaque concept, chaque modèle, chaque heuristique d'un petit exemple qu'on va puiser dans des secteurs d'activité très différents. On y retrouve souvent des exemples qui deviennent banaux du fait qu'on les retrouve dans tous les manuels. Ça ne permet pas de présenter de manière, je dirais, suffisamment approfondie l'environnement de l'entreprise dans ses différentes dimensions, technologiques, économiques, juridiques, sociales, d'une part. Ça ne permet pas non plus de poser les situations de gestion, souvent complexes, souvent risquées, multidimensionnelles, auxquelles sont confrontés les managers du XXIe siècle. On qualifie souvent de managers de la complexité. Le mot complexité veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, il m'a semblé que ce saupoudrage de petits exemples, plus ou moins connus, n'était plus à l'ordre du jour aujourd'hui, dans la période que nous connaissons et connaissant les problèmes auxquels sont confrontés les cas dirigeants. C'est pourquoi on a préféré limiter à une quinzaine d'études de cas portant sur des grands groupes de secteurs bien circonscrits, des secteurs de haute technologie déjà. hein, puisque c'est là que se posent les plus grands nombres de problèmes, que se cumulent les difficultés, que se juxtaposent toutes les dimensions des problématiques, du fait qu'il y a de l'accélération d'innovation technologique, il y a un changement organisationnel accéléré, il y a des situations de tension sociale qui sont parfois aiguës. Il y a bien sûr une confrontation à des marchés globalisés. Et il y a aussi appel à des instruments financiers souvent sophistiqués. Donc là, on cumule un peu toutes les problématiques délicates auxquelles peuvent être confrontés les managers d'aujourd'hui. Donc on a choisi les secteurs de l'informatique, d'une part, et les secteurs de l'Internet, d'autre part. Et ce qui a été étudié, ce sont tous les majors, tous les grands groupes, soit qui ont réussi, mais là, c'est pourquoi c'est un anti-manuel aussi.
D'accord,
les groupes qui ont échoué. Donc, il y a des contre-exemples, il y a des anti-modèles. Il y a le cas Enron, très détaillé, qui est présenté là, avec un certain nombre de questions qui sont posées. Le modèle Enron étant pour présenter un peu comme un précurseur, un signe avant-coureur.
Oui,
on y trouve tous les symptômes, on y trouve toutes les caractéristiques de la crise que nous connaissons aujourd'hui.
La cupidité, l'opacité.
La créativité comptable, toutes sortes de comportements de sélection adverse d'aléa morale, de la dissimulation, du lobbying au sens le plus négatif du terme, cette fonction étant bien sûr tout à fait salutaire et souhaitable dans nos organisations démocratiques modernes, mais exercée à un certain niveau, avec certaines pratiques, étant condamnable, juridiquement et moralement condamnable.
Et c'est vrai qu'on répugne toujours à regarder les raisons des échecs, alors que ce sont des sources d'enseignement extrêmement précieuses. On apprend bien que, et surtout que dans les échecs.
Bien sûr, alors, les échecs ou les crises.
Ou les crises.
Et là, on peut citer Edgar Morin, le grand Edgar Morin, la méthode. La crise ou l'échec est un révélateur de désordre sous-jacent à l'organisation. Mais est aussi un effecteur, on sent le sociologue là derrière ce terme, d'ordre nouveau.
Tout à fait.
D'ordre nouveau. Et donc, pour Enron, au cours de l'année 2001-2002, ça donne lieu à la loi Sarbanes-Oxley, puis à la loi sécurité financière en France. Et ensuite, donc en 2007, 2008 et 2009, nous le vivons pour la crise. Eh bien, je crois que l'axiome, on peut l'ériger en axiome d'Edgar Morin, est parfaitement
adapté. Alors, donc, justement, on parlait de crise financière. En quoi la crise financière va changer ou induire une profonde révision des stratégies des entreprises? Enfin, en tout cas, sur quel point? Très rapidement, parce qu'on vous écouterait très longtemps. Mais
je retourne. Oui, la crise, on va retracer l'historique. D'ailleurs, ça a été retracé très brillamment au cours de la présentation du colloque du 6 mai et dans l'ouvrage « Repenser la planète finance ». Mais bon, on sait qu'il y a une succession suivant une approche fractale, d'ailleurs. Les dimensions s'ajoutant à d'autres dimensions et venant compliquer toujours plus les problématiques soulevées par la crise. Donc la crise qui était d'abord immobilière est devenue une crise financière, touchait les marchés financiers, puis une crise bancaire, puis une crise économique et sociale. Et là, nous sommes aujourd'hui, je crois que de l'avis de tous les économistes qui ne sont pas d'accord sur la date de sortie de crise, mais qui sont au moins d'accord sur le fait que nous traversons une crise tout à fait aiguë. Bon. Donc, qui dit crise économique, dit chute de chiffre d'affaires, baisse de cash flow, tomber des résultats dans le rouge, délocalisation, parfois relocalisation, mais c'est un phénomène encore marginal aujourd'hui. C'est vrai que c'est une problématique intéressante que celle-là, dit licenciement, donc problèmes sociaux. C'est dans ces périodes de crise qu'on doit s'interroger plus profondément sur les adaptations à apporter à la stratégie de l'entreprise, à l'inflexion de la trajectoire stratégique de l'entreprise. Si on ne réfléchit pas en profondeur aux orientations stratégiques d'entreprise en période de crise, on n'y réfléchira jamais. Donc, il y a, moins peut-être que dans certains secteurs, comme le secteur de la banque, le secteur de la finance de marché d'une manière générale, où là, effectivement, il y a une réflexion encore plus en profondeur, il y a une refondation qui est à l'étude. Mais dans certains secteurs, comme le secteur immobilier, comme le secteur de la construction automobile et tous les équipementiers qui souffrent aujourd'hui énormément, eh bien, il y a effectivement associé à cette attente très forte de la part de l'opinion publique, du corps social, de développement durable. il y a, je dirais, des choix stratégiques extrêmement, je dirais, douloureux, peut-être douloureux socialement, on le vit actuellement, mais qui sont tout à fait déterminants pour l'avenir des entreprises. Il faut, je dirais, faire une distinction nette entre les grands groupes internationalisés qui sont diversement touchés selon les marchés hein, qu'ils pénètrent, et les PME. Et je dirais que le problème le plus aigu aujourd'hui, selon moi, c'est celui des PME. Il faut soutenir via un certain nombre de dispositions qui ont été prises au niveau national, dans beaucoup d'autres pays. Il faut d'abord soutenir la création de d'abord très petites entreprises qui deviendront des PME, qui deviendront de grandes entreprises. Et en France, nous avons là un problème, un double problème, celui de la création, celui de la longévité, plutôt de la mortalité infantile de ces petites entreprises, hein, qui, pour une sur deux, hein, dans les trois à quatre premières années, disparaissent. Et nous avons ensuite un second problème qui est encore plus délicat, c'est celui de l'adolescence de la PME, qui devient rarement en France une grande entreprise majeure, oui. Alors qu'elle le devient beaucoup plus aisément dans les pays allemands, dans l'Allemagne, la Mitteleuropa d'une manière générale, et même certains pays anglo-saxons, du moins avant la crise. Donc, il y a des problèmes stratégiques au niveau des grands groupes, problèmes d'adaptation, et au niveau des PME, problèmes de pérennité, de création d'abord, bien sûr, et de pérennité ensuite.
Eh bien, nous allons terminer par une ultime question, très rapidement. Vous êtes chercheur, je le disais tout à l'heure, au sein du laboratoire PRISM, de recherche en gestion, et vous avez développé des relations avec le Cercle Turgot, qui lui est plutôt un think tank. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres synergies à venir sur ce sujet, d'autres axes ?
Oui, il me semble que ces deux instances, ces deux organisations, ces deux institutions, hein, on pourrait les qualifier comme telles, puisqu'elles ont à la fois un ensemble de personnes avec leurs valeurs, leur culture, leur réseau relationnel, tant à l'université qu'au sein du cercle Turgot. Ce sont deux organisations qui comportent de nombreux membres actifs, puisque le laboratoire PRISM regroupe une quarantaine d'enseignants-chercheurs et plus de 80 doctorants, principalement en finance. C'est un des principaux pôles, d'ailleurs, francophones de recherche et d'enseignement, avec plus de 3000 étudiants en finance. Ça, c'est pour la partie, bien sûr, institutionnelle universitaire. En ce qui concerne le Cercle Turgot, me semble-t-il, enfin, j'en fais partie depuis l'origine et il m'a beaucoup apporté. C'est un think tank qui monte, hein, qui décerne des livres chaque année, ce qui a été qualifié d'ailleurs par un journaliste récemment, le prix Goncourt de la finance.
De littérature économique.
De la littérature économique, le prix Goncourt de la littérature économique, et qui organise de nombreuses manifestations, dont celle dans les locaux d'ailleurs de l'Université de Paris 1, du 6 mai. Il y a une bonne complémentarité, puisque les universitaires, par vocation, sont plutôt des théoriciens, d'une part, et des enseignants, évidemment. Et le Cercle Turgot regroupe des praticiens de haut niveau et des penseurs engagés dans l'action, hein, pas uniquement des praticiens de terrain. Donc, la confrontation d'idées entre ces deux aréopages ne peut que être profitable à leurs membres respectifs, évidemment, mais plus largement, je dirais, à l'ensemble des milieux professionnels concernés, de la finance au sens large, et pourquoi pas de l'opinion publique. Alors, je dirais, sous quelle forme cette coopération peut-elle s'exercer ? Ben, par des colloques, par des conférences-débats, par la publication d'ouvrages, par des coordinations de dossiers dans des revues professionnelles. Le Cercle Turgot est très proche de la DFCG, qui est l'association des dirigeants financiers et des contrôleurs de gestion, qui publie chaque mois une revue très, très appréciée, à la fois des universitaires et des professionnels, et très riche, très largement diffusée, qui s'appelle Échange, qui va s'appeler prochainement d'ailleurs Financium. Donc le Cercle Turgot, étant proche de la DFCG, a récemment participé à la coordination de dossiers thématiques sur des thèmes tout à fait d'actualité, comme celui de la modélisation financière, qui était un thème délicat, celui de l'éthique et du profit. Et là, on rejoint à repenser la planète finance. Ouais. Mais au-delà, je dirais, le Cercle Turgot peut être présent dans d'autres médias, Canal Académie, un exemple.
Bien, donc je vois qu'il y a toujours des nouvelles perspectives, ce qui est une excellente chose. Je voudrais terminer sur ce point en vous remerciant une nouvelle fois de cet entretien extrêmement riche et vivant. Et vous invitez, on a largement débordé le cadre de votre ouvrage, mais j'invite les lecteurs, qu'ils soient étudiants ou managers d'aujourd'hui ou de demain, à rechercher dans les bonnes librairies cet ouvrage d'une collection dirigée par Jacques Higalens, Master Stratégie, avec donc le professeur Jean-Jacques Puchart qui a conduit cette réflexion, un ouvrage qui est à la fois un manuel et un anti-manuel de 467 pages. Bonne lecture, vous y trouverez des choses, des regards croisés, notamment un chapitre qui m'a particulièrement plu, le management, une affaire d'émotion, management ou manipulation, travailler les émotions avec Aristote. Mais vous trouverez bien d'autres éclairages. En attendant, merci encore, professeur.
Merci, monsieur Jean-Louis Chambon. Merci pour ce très agréable entretien.